Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
Une phobie, c'est la peur intense et irrationnelle de quelque chose. C'est très courant, hein, 10 à 20% de la population développe une forme ou une autre de phobie. Mais quand une phobie a un retentissement sur la vie de tous les jours, bah, ça devient un trouble qu'il faut soigner. Et pour en parler, Hélène Soler, psychologue à Strasbourg. Et bien sûr, vos témoignages et histoires pour nous dire quelle phobie vous pourrit la vie, hein, pour pas dire autrement. Bah oui. Comment arrivez-vous à gérer cette phobie ou ces phobies? Car on peut en avoir plusieurs, figurez-vous. 03 88 25 15 15, n'hésitez pas à venir en parler ici, car c'est la première étape qui vous permettra peut-être d'en sortir plus facilement. Maxime Dillinger, lui, il n'a pas de la phobie de la hauteur, parce qu'il va en prendre aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire aussi, parce que c'est encore une épreuve des JO 2024 qu'il a décidé de tester pour vous. Bonjour Maxime.
Bonjour François. Oui, c'est peu dire, hein, le vertige, on va voir ça quand même une fois tout là-haut, parce que je suis à ce qu'on appelle Rock en stock et Bloc en stock. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'escalade en salle. Et il faut savoir que Ghislain, que je vais rencontrer aujourd'hui, l'un des pionniers en France dans le domaine, et comme l'escalade sportive fait partie cette année, eh bien, des JO de Paris 2024, je vais le pratiquer pour vous, découvrir l'escalade sur les murs, mais aussi en bloc. Et peut-être une expérience à la clé, vertige ou pas, vous le saurez plus tard.
Voilà, on grimpe avec vous, Maxime, dans quelques instants. Et ce ne sera pas au rideau, bien sûr, hein, sinon ça arrête. Les phobies, comment arriver à les gérer, voire même s'en débarrasser, vos témoignages et questions sont attendus dès maintenant au 03 88 25 15 15, car nous sommes à votre écoute jusqu'à 10h sur France Bleu Alsace.
France Bleu Alsace, à votre écoute.
Et oui, pour repartir à Paris pour les JO en 2024, avec des épreuves d'escalade distinctes qui sacreront deux championnes olympiques. Une première qui va combiner bloc et difficulté, et une deuxième uniquement de vitesse. Maxime Dillinger se lance donc dans la préparation pour tenter une fois de plus de rafler une médaille. Direction Rock en stock pour commencer l'entraînement avec vous, Maxime, aujourd'hui. Ça va grimper, hein?
Oui, ça va grimper. Alors, je me suis dit quand même, pour commencer, parce que l'escalade, peut-être qu'il y en a parmi vous qui la pratiquent, d'autres qui n'ont jamais fait, eh bien, c'est un sport qui a quand même pas mal évolué. On est loin des falaises maintenant, on est à l'intérieur. En plus, il commence à pleuvoir, c'est parfait. Et on va découvrir ce sport qui est l'escalade, en partie sportive pour les JO, mais de façon plus générale, l'escalade en salle. Et un des pionniers en la matière en France, eh bien, c'est Ghislain qui est avec moi. Salut Ghislain.
Bonjour.
Ghislain Brié, fondateur, créateur de Rock en stock et de Bloc en stock, ici, Plaine des Bauchers à Strasbourg. Alors, pour bien comprendre, on est où ici concrètement, Ghislain? Alors oui, on est à Rock en stock, mais c'est quoi cette salle?
Alors, on est dans c'est quelque chose que font les salles d'escalade, c'est la rénovation de vieilles friches industrielles. Et ça, c'est quelque chose qui fait également plaisir. Donc, on est dans un lieu de labeur, aussi bien à Rock qu'à Rock. Là, on est dans une ancienne usine, on voit le toit en dents de scie, les grandes verrières. Ancienne usine, des usines automobiles, la marque c'était Matisse, une marque qui a disparu. Ce local était abandonné depuis une dizaine d'années quand je l'ai récupéré en 98.
Alors, on a plusieurs types de pratiques. Alors, pour le vocabulaire, on a le mur et le bloc, c'est ça? Comment on appelle ces deux différentes pratiques déjà?
Exactement. Donc, on a un petit peu comme en athlétisme, on va dire le marathon et le 100 mètres. Alors, on va appeler le bloc, c'est un petit peu le 100 mètres. C'est-à-dire, c'est un effort qui est très court sur un mur de 4 mètres, 4 mètres 50 maximum. Donc, l'ascension est très rapide et on tombe sur des tapis. Ça, c'est le bloc. Ouais. C'est une discipline olympique. C'est à comparer au sprint. Et on a ensuite ce qu'on appelle, nous, la difficulté. Enfin, du moins, c'est la dénomination olympique, la difficulté, c'est-à-dire la corde, où là, on a un effort qui est plus long, sur des murs qui montent beaucoup plus haut, et on a baudrier, corde, mousqueton, assureur, et on va grimper jusqu'à 10-15 mètres de hauteur.
Alors, ça fait des beaux espaces, des beaux volumes, avec de belles couleurs aussi, parce que chaque piste a sa propre couleur. Il faut aussi qu'on parle de toi, parce que Ghislain, tu as été un des pionniers en France, j'ai envie de dire cocorico, même dans le monde, en Europe, ce modèle d'affaires de l'escalade. Il y a quelques chose qui s'est passé. Tu es aussi le président de la Fédération française. Explique-nous un peu ton profil.
Alors non, je ne suis pas président de la Fédération française. Je suis président parce que là, Alain Carrière, il ne va pas être content. Notre président de la FFME. Je suis président de l'Union des salles d'escalade. Donc, c'est un syndicat patronal immatriculé à Strasbourg et qui regroupe la majorité des enseignes de salles d'escalade privées de France. Ouais. Donc, je suis précurseur parce que Rock en stock, en 98, c'était la quatrième salle d'escalade de France. Et 27 ans plus tard, on est toujours là.
Pionnier en la matière. Alors, on va rencontrer dans quelques minutes maintenant le coach, il s'appelle Mickaël, et il va nous faire une première initiation. Je n'ai pas dit que je monte, mais on va déjà parler un peu matos, ok? Allez, à toutes.
À tout à l'heure, Maxime. Vous n'êtes pas agrophobe, ça c'est la peur des hauteurs, hein, sur France Bleu. C'est Maxime Dillinger qu'on retrouve dans quelques instants. Moi personnellement, j'étais un adepte de la varap, comme on l'appelait, hein, aussi, et notamment d'un certain Patrick Hedlinger qui a démocratisé cette discipline, bien sûr, et qu'on regrette beaucoup, Patrick Hedlinger, parce que lui, il faisait des choses incroyables. On aura peut-être l'occasion d'en parler, tiens, sur France Bleu. Ça.
France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
Heureusement que je ne suis pas microphobe, hein, sinon je ne pourrais pas exercer mon métier naturellement. Bah oui, les phobies, on en parle sur France Bleu Alsace avec Hélène Soler, notre psychologue avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Bienvenue sur France Bleu Alsace. On attend vos témoignages, hein. Venez nous raconter vos histoires de phobies au 03 88 25 15 15. Car en parler, Hélène, c'est important d'en parler de ces phobies.
Bah surtout si elles sont handicapantes. Oui, qu'il y a des solutions.
C'est la première étape. Mmh. Alors déjà, pour bien lutter, il faut connaître son ennemi. C'est quoi une phobie ?
Alors, c'est une peur irrationnelle d'une situation ou d'un objet qui fait que ça va systématiquement provoquer un évitement. Et si l'évitement n'est pas possible, ça va vraiment mettre la personne dans une souffrance et une difficulté intense.
Il faut différencier la peur de quelque chose de la phobie qui est une peur irrationnelle, vous disiez, Hélène, hors antenne.
C'est ça. En fait, la phobie, il y a vraiment une surévaluation du risque d'apparition et même une surévaluation du danger. Et une hypervigilance par rapport à ça, ce qui est très différent d'une peur normale.
C'est assez surprenant, c'est comment ça peut se manifester, le fait de se dire, tiens, on a une phobie de telle ou telle chose. J'ai l'impression qu'on est victime d'hallucinations aussi quand on est victime de phobie.
Disons que quand on ressent des émotions intenses, le cerveau ne fonctionne plus comme quand tout va bien. Enfin, il va interpréter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est un peu le problème de la phobie, c'est qu'une fois qu'on est dans sa peur, on n'arrive plus à se raisonner. Et là, cercle vicieux.
Un exemple ?
Admettons.
Non, c'était mon bras, c'était pas parce que je disais.
Okay,
c'est
par rapport au serpent, ouais. J'imagine que c'était un serpent.
Fait très mal le serpent, hein, tiens, je veux dire.
Imaginons, si j'ai la phobie des serpents et qu'en fait je vis en ville, mais je suis constamment en train de surveiller tout ce qui grouille au sol, et du coup, admettons, je vais voir un câble et je vais croire que c'est un serpent, je vais le confondre, et puis du coup, je vais me mettre à hurler ou à m'enfuir, alors que finalement, c'était rien de ce que je pensais.
Vous voulez dire que les gens, on pousse à l'extrême le truc, c'est-à-dire quand on a une phobie comme celle-là, c'est-à-dire qu'on peut imaginer ce genre de choses-là, c'est parce que c'est de l'imagination finalement, qui est très créative. Hein.
C'est pas que de l'imagination, mais en fait
on le dirait comment, ouais, on le dirait comment en fait.
Là, j'ai plus forcément le terme.
Ah. Bon, ça se manifeste comment alors quand on a une phobie ? Comment est-ce qu'on peut repérer qu'on a une phobie ?
Souvent, c'est qu'on sait que l'objet ou la situation en question n'est pas dangereux, mais qu'on n'arrive pas à contrôler sa peur et ça devient handicapant. Ça provoque des peurs très intenses et souvent des fuites ou des évitements qui, du coup, peuvent être gênants.
Est-ce qu'on peut connaître les causes qui ont provoqué une phobie ou les causes de est-ce qu'on peut avoir une phobie du jour au lendemain comme ça alors qu'on n'avait rien jusqu'à maintenant ?
Oui. Alors, ça dépend. Il y a des peurs qui peuvent être innées, comme par exemple, quand on est enfant, c'est normal d'avoir peur du noir ou de l'orage, mais qui, avec le temps, s'estompe. Des fois, pas, en fonction de comment on va le vivre. Et il y a des peurs qui peuvent venir aussi de notre éducation. J'ai jamais été confrontée, par exemple, aux araignées, mais j'ai toujours vu ma mère avoir peur des araignées. Du coup, par mimétisme, je vais aussi avoir peur. Ou alors, des fois, j'ai vraiment vécu un événement traumatisant. Et du coup, je développe une peur de ça. Par exemple, je me suis fait mordre par un chien. Et du coup, ensuite, je développe une phobie des chiens.
Bon, restez avec nous, Hélène Soler, bien sûr. Et si vous avez des questions concernant les phobies, vous êtes peut-être victime de cette situation. N'hésitez pas. 03 88 25 15 15. Nous restons à votre écoute.
France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute. François Pingano.
Maxime Nilinger prépare les Jeux Olympiques de Paris, bien sûr, dans un peu plus de 100 jours. Et puis, nouvelle épreuve dont il a décidé de tester, c'est l'escalade sportive à Roquenstock à Strasbourg, Maxime.
Oui, tout à fait. Alors, je me prépare tranquillement pour la pratique. Là, je suis face au mur et je suis surtout bien accompagné puisque je suis avec Mickaël. Salut Mickaël.
Salut tout le monde.
Alors, Mickaël, il est entraîneur, mais c'est aussi quand même celui qui entraîne la meilleure équipe du Grand Est. Je tiens à le préciser que ça fait quand même 20 ans qu'il fait de l'escalade et qu'il maîtrise largement le sujet. Mickaël, on va parler un peu matos. Avant que je monte sur ce mur, il va falloir que je m'équipe. Alors, on a pour commencer, il faut que je mette ce baudrier.
Effectivement, okay. C'est la ceinture de sécurité qui va vous permettre de vous accrocher, de vous encorder. Ouais. Et de ne pas retomber par terre si jamais vous lâchez.
Donc là, je l'enfile. Hop, ça, c'est bon. Bon, il était déjà un peu enfilé. Hop, là, on a sur le mur. Moi, j'appelle ça ces espèces de petites prises. Là, ça, c'est des prises.
C'est ça. C'est des prises d'escalade, ouais.
Ok. Là, on a différentes couleurs face à nous sur le mur. Il y a des prises bleues, il y a des prises vertes, il y a des prises roses. Ça veut dire quoi?
Alors, en salle, on a un sacré avantage, c'est qu'effectivement, on va jouer sur les couleurs pour permettre de faire plusieurs parcours au même endroit. Ouais. Donc, le but du jeu, ça va être de choisir une couleur en fonction de ton niveau et d'essayer de s'y tenir.
Donc là, on a une catégorisation des voix. Ça va du plus simple, c'est quoi?
Alors le plus simple, c'est du 3,
ouais.
D'accord, sur l'échelle de cotation. Et ça va actuellement jusqu'à 9C, 9C+, en falaise.
Donc là, les 3, celles que je vois en face de moi, voilà, c'est des prises que je peux tenir largement dans ma main. Et il y a ce drôle d'outil que t'appelles comment?
Ça s'appelle un gris-gris.
C'est un gris-gris.
C'est un frein à assistance de freinage, en fait, ce qui nous permet de verrouiller et de bloquer la corde en cas de chute.
Donc il y a, là, quand je vais monter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va devoir tenir la corde en bas pour me sécuriser?
Tout à fait. En fait, l'escalade, c'est un sport individuel qui peut pas se pratiquer tout seul.
Okay.
Donc c'est-à-dire qu'on est face au mur, face à notre problème, face à la voie, mais par contre, on a toujours besoin d'un binôme. C'est un peu l'esprit de cordier de Frison Roche qui disait que voilà, on est à deux et on est ensemble pour faire la voie.
Alors ces voies, elles sont pas faites n'importe comment. Elles sont régulièrement renouvelées et c'est ce qu'on appelle les ouvertures. Tu peux nous expliquer c'est quoi les ouvertures?
Alors les ouvertures, c'est tout simplement la création de parcours. Dans une salle d'escalade, on a des gens qui viennent régulièrement et pour pas qu'ils s'ennuient, en gros, on est obligé de renouveler régulièrement les parcours, chose qui ne peut pas être fait par exemple en falaise.
Ok, donc ça fait partie de ton boulot et beaucoup d'heures là-dessus. Et on revient aussi sur cette équipe, ces jeunes là, la meilleure équipe du Grand Est que tu entraînes, c'est qui ces jeunes?
Alors ce sont des jeunes qui ont entre 10 et 20 ans,
ouais.
Et actuellement, oui, on truste pas mal les podiums au niveau régional et on a même un de nos athlètes, Arthur Giraud Bernardo, qui fait partie des 10 meilleurs grimpeurs de sa catégorie en France.
Et bim, et tout à l'heure on va rencontrer, oui, mais tout à l'heure on aura même l'occasion de rencontrer Mickaël Mahou, qui lui a son pédigré est quand même plutôt intéressant.
Un petit peu légèrement au-dessus, il est champion du monde en titre de bloc.
Et voilà, Robim, allez, moi je me prépare à monter, à tout à l'heure.
Oui, voilà, donc quand Jean-Claude Duss dit éventuellement il y aurait une ouverture, ça n'a rien à voir avec l'escalade, quand Jean-Claude Duss dit ça, bien sûr. L'ouverture, c'est aussi un escalade, c'est ça, d'accord. Je viens de comprendre, hein. Oh là, dites donc, merci Maxime, heureusement que vous êtes là. À tout à l'heure, à Rock en Stock, toujours à Strasbourg. On fait de la grimpette aujourd'hui, tiens.
France Bleu Alsace, à votre écoute.
Oui, parce qu'on parle de phobie sur France Bleu Alsace avec Hélène Solaire. Elle est psychologue à Strasbourg. Hélène, je vous propose d'accueillir Agnès qui va nous parler, elle, de sa phobie. Bonjour Agnès.
Bonjour François, bonjour Hélène.
Bonjour.
Merci de votre patience. Agnès, vous voulez nous parler donc de cette phobie, de quoi exactement?
La phobie des oiseaux.
Ah, ça se... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain ou...
Alors, du plus ancien que je puisse me souvenir, je ne pouvais pas aller chercher des œufs dans le poulailler de ma grand-mère, déjà. Ça, c'est vraiment le souvenir le plus ancien. Ensuite, quand on était petit, on a eu des canards à la maison et je me souviens qu'il était impossible. Et ensuite, eh bien, quand je marchais en ville, je faisais un gros détour pour éviter les pigeons, mais voilà. Et je n'ai jamais eu d'oiseaux à la maison, hein. Ça c'était impossible.
J'imagine.
J'ai une fois eu j'avais ma porte-fenêtre qui était grande ouverte et un moineau est rentré dans la cuisine.
Voilà.
Mais c'était une catastrophe. J'ai dû chercher le voisin pour qu'il chasse la bête. Voilà, je panique, je perds tous mes moyens. Et alors bien sûr, hein, je n'irai jamais à la volerie des aigles.
Ah, alors, est-ce que justement, ça ne serait pas un bon moyen de lutter contre sa phobie, c'est de l'affronter, Hélène Solaire?
Oui et non, mais c'est de manière progressive.
Ah.
Le problème, c'est que là, je pense que la volerie des aigles, ça serait peut-être un peu trop intense pour commencer.
D'accord.
Mais même si quelqu'un a un perroquet chez lui, c'est quelque chose d'insupportable.
Alors qu'il est en cage, le perroquet, et donc...
Oui, mais voilà. Et même, disons que j'ai même du mal à toucher une plume. C'est quelque chose d'assez... Enfin, voilà. Alors maintenant, ça va mieux quand je vais à Strasbourg. Disons que je côtoie un pigeon à 50 cm maintenant. De ce côté-là, j'ai un petit peu... Voilà, ça va un peu mieux.
Il s'appelle Gérard.
Mais j'ouvre pas mes Vélux très très grands parce que j'ai toujours peur qu'un oiseau... Alors c'est voilà, j'aère tous les jours, mais c'est jamais en grand. Parce que j'ai toujours peur qu'un oiseau rentre dans mon appartement.
Ah, et alors donc ça vient de tout petit en plus, vous le disiez, puisque même avec votre grand-mère, vous n'aviez... C'est des phobies que vous avez déjà traitées, Hélène Solaire, la phobie des oiseaux, l'ornithophobie.
Absolument, oui, j'ai déjà fait ça. Bah, à Strasbourg, ça peut être très gênant, hein. Il y a beaucoup de pigeons quand même.
Oh là, oui.
Ah bah oui, alors je ne suis pas allée encore à Rome. Hein.
Ah oui, à Place Saint-Marc, à Venise aussi, c'est, ah bah oui, c'est foutu. Là.
C'est déjà un frein pour moi.
Ah bah oui, j'imagine bien. Est-ce qu'on peut, voilà, vous disiez, on peut lutter contre une phobie comme celle-ci en affrontant cette phobie, mais pas forcément en allant Place Saint-Marc ou à la Volerie des Aigles. Alors on fait comment dans ces cas-là?
On y va de manière progressive, c'est-à-dire déjà, comme dit Agnès, toucher une plume, c'est déjà compliqué, donc on va commencer vraiment au plus petit possible. Ça sera peut-être même des images, peut-être des images de dessins. D'abord, on se confronte à ça.
J'ai des amis qui ont des très beaux cadres avec des photos d'oiseaux. C'est même pour moi des impossibles. Je le regarde, mais une fraction de seconde, et après, il faut que je repasse ailleurs.
Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même, à ce point-là.
Ouais, quand la phobie est vraiment ancrée depuis très longtemps, c'est même... Ça va au-delà de l'oiseau en question, c'est même des images comme elle le décrit. Et du coup,
Est-ce que vous-même, vous essayez de vous en débarrasser de cette phobie ou vous avez dit « je vais essayer de vivre avec Agnès »
Je trouve que j'ai déjà fait un gros progrès avec les pigeons. Parce que franchement, je faisais un gros détour. Ou alors, quand je suis accompagnée, je leur dis « devant, vous faites champ libre, vous écartez les pigeons. » Et moi, j'étais 2-3 mètres derrière. Et ça, maintenant... Quand je suis toute seule, je me suis dit, maintenant, comme je vous disais, j'arrive à marcher à 50 cm d'un pigeon.
D'accord. C'est bien déjà, c'est un bon début. Est-ce que vous voulez aller plus loin, Agnès?
Je ne sais pas, parce que c'est vraiment... Je vous dis déjà, même pour aérer, c'est un problème chez moi.
Ouais. En tout cas, vous souhaite bon courage, Agnès, et merci d'être venue témoigner et nous parler de cette ornithophobie. Donc, c'est la peur des oiseaux. Donc, merci infiniment, Agnès. Belle journée à vous et bon courage pour la suite.
Mais
je vous en prie. Rapidement, ma chère Hélène, la théorie de l'ours blanc que vous évoquiez, c'est quoi cette théorie de l'ours blanc?
C'est justement quand on essaye de pas penser à quelque chose, comme si je vous dis ne pensez pas à un ours blanc. Vous allez automatiquement penser à un ours blanc.
Bien
et
sûr.
Dans la phobie, c'est ça. Si j'ai une phobie des chiens et que je me dis, faut surtout pas que je croise de chien, trop tard, j'ai déjà le chien dans la tête, j'ai déjà peur, et si j'en croise un, c'est fini.
Alors pour Agnès, par exemple, les oiseaux, donc ne pensez pas à un oiseau.
Si elle est déjà dans l'anticipation de je vais croiser un oiseau, ou si j'ouvre ma fenêtre, il va y avoir un oiseau, voilà, ça va être catastrophique.
Mais alors ça sert à quoi cette théorie alors?
C'est une théorie qui nous explique pourquoi.
Ah, pourquoi on a là, d'accord. Voilà. Je pensais que ça pouvait m'aider, moi. Pas du tout.
Si, pour briller en soirée, voilà. La théorie de l'ours blanc de Weiner.
C'est marrant parce qu'il y avait Agnès qui parlait du champ qu'on doit laisser libre. Le champ est libre, ça tombe bien parce qu'on a Patrick Fiori qui arrive sur France Bleu Alsace.
France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
Maxime Lillinger, lui, à Rock en Stock, essaye d'atteindre le paradis. Il a décidé pour cela de grimper sur France Bleu Alsace. Oui, vous êtes courageux, c'est bien.
Oui, alors maintenant, mise en pratique. Ça y est, je suis équipé. Et là, je suis aussi bien entouré, parce que je suis quand même avec le directeur, Ghislain. Première chose, la base de la grimpe. Je commence par quoi? Par les mains, par les pieds, par la bouche? Je fais quoi?
On va commencer par la sécurité. Donc, on a tous les deux un baudrier. Ouais. Moi, je vais utiliser mon baudrier pour assurer ta sécurité, pour que lorsque tu tombes, tu sois retenu par la corde. Mais c'est moi qui vais retenir la corde grâce à un système d'assurage qu'on appelle un assureur. Donc, la première chose avant de partir, c'est de vérifier que tout est OK. Alors, on va faire un double check. Ça veut dire, je vais essayer d'ouvrir ton mousqueton pour vérifier que tu l'as bien fermé. Et tu fais la même chose avec le mien.
OK, alors, on teste. OK, mousqueton, c'est bon, là, c'est bien fermé.
Voilà. Directement sur le pontet. Bon, là, maintenant, au moment où tu démarres, tu me tournes le dos puisque tu fais face à la paroi et tu me dis un petit go et moi je te dis OK. Voilà.
Allez,
OK, c'est parti.
Faugis go, c'est ça, go.
Ouais.
OK, donc là je commence quoi? Je mets la main en force en premier.
Tu prends les prises. Okay. Alors attention, l'escalade ça reste comme monter un escalier sauf que l'escalier, il est un peu dur. Donc c'est avec les jambes. Contrairement à une idée reçue, tu vas pousser sur tes jambes pour t'élever et les mains vont juste t'empêcher de tomber en arrière.
Okay.
Parce que crois-moi, ta cuisse est plus musclée que tes bras.
Bon, et on est lundi matin, alors là je passe sur, hop, et là je suis là, et après là je fais quoi?
Écoute, il n'y a pas de problème, tu continues de monter. Normalement, quand c'est dur, faut avancer. Quand c'est facile, on peut se reposer. Mais tu peux tomber à tout moment. Je suis là pour te retenir.
Alors, je suis là. Bon, j'ai la main qui tremble. Hop, là, je change de prise et je prends celle au-dessus. Alors, oui, c'est vrai qu'elles sont quand même bien faites, ces prises-là. Là, je suis au niveau facile, c'est ça? Elles sont vraiment bien faites, là, c'est ça?
Exactement. Alors, pour créer de la difficulté, on n'a pas trouvé mieux que éloigner les prises et diminuer leur taille. Et là, on est sur une voie facile. Donc, les prises sont toutes très bonnes.
Alors, je précise que c'est la première fois que je fais ça. Donc là, ensuite, il ne faut pas être bloqué. Comment je fais, là, à partir de là? Je prends appui sur le pied.
À partir de là, c'est toujours la même histoire. En fait, plus que ses mains, qui sont en face de notre tête, hein, ben, il faut regarder ses pieds. Donc, ce que l'on cherche quand on grimpe, ouais, c'est où est-ce qu'on va mettre le pied ensuite.
Ben, parce c'est une excellente question, ça.
Où est-ce que je vais mettre le pied? Donc, on s'éloigne un peu de la paroi.
Okay.
On cherche une prise de pied. Et une fois qu'on l'a trouvée, on pose le pied dessus, on transfère son poids sur le pied et on pousse.
Okay. C'est de la marche. Alors, c'est comment la phobie comment vous disiez là, pas la phobie du vide, mais vous savez, la phobie de ne pas savoir où mettre ses pieds, ça porte un nom, ça?
Ne pas savoir où mettre ses pieds, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Je vais essayer de trouver ça.
Où mettre ses pieds, hein?
Par contre, moi, je sais où le mettre le pied pour que vous avanciez un peu plus vite, mon cher Maxime.
Ça reste un transfert du poids d'un pied sur l'autre. C'est ce que tu as fait très bien. Je te félicite.
Ah, merci.
Tu vas avoir ton petit diplôme, ton accréditation et ta médaille. C'est un petit badge.
Bon. On se retrouve juste après le journal de 10h, cette fois-ci à Bloc en Stock. Pour aller faire du bloc, c'est à une centaine de mètres et une autre pratique tout aussi délicieuse.
Super. Moi, c'est le pied au cul pour avancer plus rapidement. C'est une technique comme une autre. Hein. Maxime Dillinger, donc, qui nous fait grimper à l'occasion des Jeux Olympiques, hein, à Paris, bien sûr. Encore une épreuve pour Maxime Dillinger qu'on retrouvera après les infos de 10h.
France Bleu Alsace, à votre écoute. Est-ce
que vous en avez peur de ça? Tiens, la phobie de ceux qui chantent faux aussi. Tiens. Par contre, j'ai le terme qui décrit la phobie des mollons, c'est l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie. Ils sont gonflés quand même d'appeler ça la phobie des mots longs, puisqu'il est extrêmement long. C'est un des mots les plus longs d'ailleurs de notre vocabulaire. Hélène Soler, psychologue, on en parle des phobies. Il y a une phobie qu'on n'a pas évoquée encore, c'est la phobie sociale. Et celle-là, elle fait beaucoup de mal, hein, je crois.
Oui, elle est très présente. Oui, c'est la peur d'être jugée. Ça va aussi beaucoup avec l'anxiété de performance, de toujours bien faire, de renvoyer la meilleure image ou de, enfin, tout ce qui va être discours en public ou rencontrer des nouvelles personnes, ça peut être très compliqué et vécu très difficilement.
Et ça, on le traite comment, alors, justement? Parce que j'ai appris qu'il y a des phobies. Alors, c'est des séances chez le psychologue. Mmh. Chez là ou le psychologue, d'ailleurs. Mais malheureusement, certains sont obligés aussi de faire appel à des traitements médicamenteux.
Oui, si vraiment l'anxiété est très intense et qu'elle bloque complètement toute action possible, c'est plus intéressant de prendre un traitement en parallèle de la thérapie pour apaiser un peu les symptômes et pouvoir travailler plus sereinement.
Mais alors, c'est d'autant plus difficile si on a la phobie des médicaments.
Oui, alors...
bon... je suis terrible.
Vous cherchez les problèmes. Hein.
Moi, je sais. Mais comment est-ce que chez le psychologue, on peut traiter ce genre de phobie? D'ailleurs, comme toutes les phobies que vous traitez, j'imagine, dans votre cabinet.
Alors, dans la phobie sociale, c'est un petit peu différent parce qu'il y a quand même toute une mentalisation derrière où on va... peut-être qu'il y a beaucoup de perceptions qui sont erronées, où la personne va se dire « Ah là, je pense que la personne, elle s'est dit ça, elle a pensé ça », où il y a beaucoup ce qu'on appelle des lectures de pensée, et ce qui n'est pas forcément vrai. Du coup, c'est intéressant aussi de travailler sur la sphère mentale, et pas que la sphère comportementale, où comme dit, on va s'exposer à ce qui nous fait peur, mais si derrière, il y a des pensées qui viennent saboter les efforts, c'est-à-dire que même si la personne fait une présentation en public et qu'à la fin, elle se dit « Ouais, tout le monde m'a détesté, c'était nul, et ça, je suis
nul. » Ça fait partie d'une phobie sociale quand on réagit comme ça?
Quand il y a de la dévalorisation soi et de ses performances, et surtout quand on pense que les autres nous dénigrent également.
Alors qu'on a fait un super exposé, j'imagine, ou quoi?
Oui. Peu importe le résultat, c'est nul.
J'avais une question aussi à vous poser concernant la génétique, parce qu'on peut parler de facteurs génétiques qui peuvent expliquer les causes. Est-ce qu'on a raison d'en parler, justement? Parce que si notre maman, par exemple, ou notre papa, il a eu une phobie, est-ce que nous, on peut l'avoir également?
Là, ce qui est très difficile, c'est est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est plutôt éducatif et que ça a été transmis de cette manière-là, de manière volontaire ou involontaire? Donc, c'est difficile de savoir.
Si le genre de questions que vous poserez, de toute façon, en général, quand vous recevez les personnes dans votre cabinet, mais est-ce que ces genres de questions qu'on pose, est-ce que vous allez chercher au plus profond du passé des personnes que vous rencontrez?
Parfois, oui. Ça dépend, c'est pas forcément utile, parce que nous, on va se concentrer sur comment fonctionne le trouble aujourd'hui. Alors, des fois, c'est intéressant de savoir d'où ça vient, mais des fois, si on trouve pas pourquoi, c'est pas si grave.
Bon, la pire des phobies peut-être serait la peur d'avoir peur. Mais comme vous disiez hors antenne aussi, on l'est tous un peu.
Oui. Après, c'est du moment. Est-ce que c'est vraiment une phobie ou c'est juste une appréhension?
Mais ça existe quand même. Ouais. Hein, la phobophobie, ça s'appelle comme ça. Bon, on aura appris des choses, en tout cas sur les phobies et puis surtout comment essayer de lutter contre. Merci, Hélène Soler.
Je vous en prie.
D'avoir été avec nous. Autre chose à dire sur les phobies?
Venez me voir.
Voilà. Voilà, parfait.
Et puis, vous retrouvez cette émission, en tout cas, dans quelques instants, sur francebleu.fr Alsace, rubrique à votre écoute. Et puis demain, ce sera un autre thème qui sera abordé.
France Bleu Alsace, à votre écoute.